scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Je suis votre hôte Jean-Michel Abrassard. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter des extraits d'une vidéo de la Tronche en Bière à laquelle j'ai participé. Donc le mois dernier, j'étais au Festival de géopolitique à Grenoble. Et ça a été une expérience très intéressante de participer à ce festival. J'ai eu l'occasion d'y rencontrer plein de sceptiques. Il y avait donc Christophe Michel de la Tronche en Bière, Serge Bret-Morel de Lozette, le nouveau président de Lozette. Félicitations à lui, etc. Et nous avons donc enregistré une émission de débat d'autocritique de la zététique avec la Tronche en Bière. Et vous la trouverez évidemment sur la chaîne de la Tronche en Bière. Mais la vidéo fait juste 2 heures, hein. 2 heures et quelques minutes. Et donc j'ai extrait 2-3 extraits qui me semblent qui sont particulièrement intéressants pour moi, donc qui sont liés à mes interventions. Mais évidemment, vous entendrez les réactions des autres intervenants. Le premier extrait a trait au féminisme, et le deuxième extrait a trait au paranormal. Et donc j'y mentionne un peu les difficultés que j'ai depuis dans le cadre de la communauté sceptique. Je pense qu'en ce qui concerne le féminisme, mon message est pas mal passé. En ce qui concerne le paranormal, j'ai souvent l'impression de dialoguer, qu'il y a un peu un dialogue de sourds, parce que je suis à l'heure actuelle dans une position très différente des autres zététiciens présents. En réécoutant, en préparant cette émission, en réécoutant les interventions, je pense que le désaccord fondamental ou de base, c'est qu'est-ce que finalement porte sur ce que doit être la zététique. Et moi, je défends toujours ce que j'appelle la zététique à l'ancienne ou classique. Tandis qu'on voit une nouvelle zététique émerger depuis avec YouTube assez, de manière assez forte. Hein. Et donc, pour moi, c'est un peu une opposition entre la zététique comme vulgarisation versus la zététique comme érudition. Voilà, de toute façon, là, je commente la conversation que vous n'avez pas encore entendue, donc je vais vous laisser l'écouter, et j'espère que ça générera un peu de débat, au moins dans les fans du balado scepticisme scientifique, même si ce débat, je sais bien, touche peu le reste de la communauté zététique ou sceptique, qui est déjà habitué à l'idée que la zététique, finalement, ce n'est qu'un synonyme de vulgarisation, avec un peu des tonalités bien précises, liées à la pensée critique et à la... Voilà... Sinon, je voulais quand même vous dire aussi 2-3 choses sur l'actualité, puisque c'est vrai que j'ai posté moins d'épisodes à cause justement de cette actualité récemment. Mais donc la bonne nouvelle, c'est que j'ai terminé mon nouveau livre en collaboration avec Michel Lurquin, qui est un membre du comité para. Le nouveau livre s'intitule donc « Pour en finir avec le paranormal ». Bon, après, c'est pas comme pour 60 questions sur le paranormal, c'est pas moi qui ai choisi le titre, ça fait partie d'une collection. Il y a déjà eu un livre qui s'appelle « Pour en finir avec les mythes de l'histoire ». Donc, je me suis inséré dans cette collection comme co-auteur. De toute façon, je ne suis que le deuxième auteur. On peut discuter de l'intérêt du titre. Mais pour moi, je pense que... On n'en finira jamais avec le paranormal. En réalité, évidemment, c'est finalement la conclusion à laquelle on arrive. Hein. Mais je pense que c'est un titre vendeur. Et si ça peut permettre d'attirer le regard des gens... Franchement, je n'ai rien contre ça. Pour donner une idée, pour être dans la transparence totale, par exemple, 60 questions sur le paranormal et les réponses que la science y apporte, il s'est vendu à l'heure actuelle à 1882 exemplaires, ce qui est, au dernier chiffre que j'ai eu, évidemment, de l'éditeur Mardaga, ce qui est, à mes yeux, un succès, mais pour Mardaga, un échec. Ils espéraient en vendre 3000. Ceci dit, dans la même collection, hein, pour 60 questions sur l'amour, etc., ils sont tous vendus dans ces eaux-là, autour de 1500 exemplaires. Donc, simplement... C'est intéressant de savoir quand même que ce livre, bon, même si pour moi, le nombre est déjà un bon nombre, pour un éditeur, c'est un échec. Et bon, évidemment, ça veut dire aussi que ça limite la possibilité qu'il me repropose d'écrire un autre livre, etc., hein, mais donc c'est quand même, voilà, comme ça vous le savez. Et donc, honnêtement, pour en finir avec le paranormal, si ça aide à la vente du livre et que les gens, grâce à ce titre, sont confrontés à de la littérature plus sérieuse sur ces sujets, amène à ça, je suis tout à fait content. Ça vaut mieux que mettre un titre super nuancé que le livre ne se demande pas, hein, franchement. Voilà, et donc pour en finir avec le paranormal, dont l'auteur principal est Michel Lurquin et moi je suis co-auteur, sortira au mois de juin, donc dans toutes les bonnes librairies. Et on y couvre des tas de sujets, donc le livre est fini, hein. Le qui dans les arts martiaux, le Slenderman, bon, mes sujets classiques sur les ovnis, mais j'ai aussi été chercher d'autres choses, hein, pour me. Parce que, bon, voilà, même moi je suis un peu fatigué de parler des ovnis, mais bon, forcément on a fait l'un ou l'autre chapitre sur les ovnis, puisqu'il fallait quand même en parler. J'ai fait un chapitre sur les miracles dans la Bible, que j'aime beaucoup. J'ai fait un chapitre sur le psy aussi. Voilà, je pense que de mon côté, évidemment, de toute façon, il y a tout ce qu'a contribué Michel Lurquin. Mais pour ceux qui ont l'habitude de m'écouter, il y a un mélange de choses classiques de ma plume, entre autres tous les chapitres sur le phénomène ovni. Il y a 3 chapitres sur les ovnis, hein, pour en finir avec les ovnis, pour en finir avec les enlèvements par les extraterrestres, et pour en finir avec Roswell. Donc il y a 3 chapitres que j'ai écrits sur les ovnis. Et après, il y a toutes des choses qui sont des nouveaux sujets, pour en finir avec le qui dans les arts martiaux, je sais pas si je l'ai mentionné, que j'aime beaucoup aussi, qui sont des nouvelles choses. Enfin bon, si vous écoutez le podcast, vous êtes quand même familier, vous savez le genre de choses que je raconte, mais c'est la première fois que je mets ça par écrit dans un livre, et donc j'espère que ça vous intéressera. De toute façon, on en reparlera. Je vais voir avec l'éditeur, mais j'ai comme projet d'enregistrer, de lire 2-3 chapitres et de les diffuser sur le podcast. J'attends l'accord de l'éditeur, on verra s'il est d'accord. Moi, je pense que ce serait une bonne pub pour le livre de vous lire quelques chapitres, et donc vous pourrez découvrir un peu en avant-première le contenu s'il l'autorise. Sinon, ben, il faudra que vous achetiez le livre, mais je pense que ça sera voilà, une bonne. C'est très différent de 60 questions sur le paranormal où là je traitais de recherches scientifiques bien spécifiques que je vulgarisais. Ici, si vous voulez avoir vraiment mon opinion sur les sujets paranormaux, c'est là que vous les trouverez. C'est là que j'ai vraiment donné, voilà, ce que, à l'heure actuelle, je pense que ce qu'on sait sur tel phénomène paranormal, l'état de la question, je pense que c'est ça. Pour avoir lu ce que je dis sur les ovnis, c'est même pas dans 60 questions sur le paranormal. Il faut que vous ayez soit téléchargé, soit acheté ma thèse pour avoir une idée de ce que je raconte, mais. Là, finalement, ce livre-là est plus personnel que 60 questions sur le paranormal, où je ne faisais que vulgariser des recherches bien précises. Et sinon, j'ai un autre projet qui avance pas mal, qui est un livre pour les enfants, d'introduction à la zététique. Là, je suis vraiment super enthousiaste par ce projet. J'ai été contacté par un jeune zététicien qui est aussi un artiste, qui a déjà publié plusieurs livres pour enfants. Et Marius Notet, et il va, on collabore, on a travaillé sur déjà, enfin, on travaille dessus activement sur ce livre. Et le projet, c'est de faire un livre pour les enfants à partir de qui soit accessible à partir de la première primaire. Il s'adresse donc à un public de primaire et qui explique les fondements de la démarche zététique. Quand on a déjà bien, vraiment super bien avancé sur ce que j'appelle le premier chapitre, hein, mais c'est pas tout le livre, mais qui traite du monstre du Loch Ness. Parce qu'on a trouvé que c'était l'idée, c'est de trouver vraiment une porte d'entrée dans la zététique qui permet d'expliquer à un enfant, bah mon fils, hein, il vient de terminer, il est sur le point de terminer sa première primaire, hein, donc il a 6 ans, il va sur ses 7 ans, quelque chose que je puisse lui lire à lui et qui lui explique, ça veut dire quoi, c'est quoi la zététique, donc le mot zététique est écrit dans le livre, et on essaie vraiment de l'expliquer, voilà, d'expliquer à des enfants c'est quoi la zététique, hein, et donc. On va utiliser des monstres, donc le premier c'est le monstre du Loch Ness, pour expliquer les fondements de la démarche. Voilà, et ce livre-là, on pense à ce stade-ci des choses le crowdfunder, donc j'espère que c'est un projet qui vous passionnera autant que nous, mais à l'heure actuelle, enfin, il y a, j'ai déjà le lire à ma connaissance, mais j'en suis certain, hein, parce que j'ai déjà cherché beaucoup ce genre de choses, il n'y a aucun livre qui explique la pensée critique à des enfants de primaire. En tout cas, dans une perspective zététique, il y a des choses qui sont de l'introduction à la philosophie pour des enfants jeunes, mais des introductions vraiment à la démarche zététique, il n'y en a pas. Par contre, Kia, c'est plein de livres qui font l'inverse de ce qu'on veut de ce qu'on va faire, c'est-à-dire qui expliquent c'est quoi l'Écosse, par exemple, qui expliquent qu'il y a un monstre qui y habite, puis qui donnent des explications sceptiques un peu bidons, mais enfin qui introduisent le fait que c'est pas forcément vrai, mais qui terminent en réenchantant le monde, en ayant un geste, par exemple, alors que le personnage principal a été exposé à plein d'explications prosaïques. Il part en bus et à l'arrière du bus, vous observez, vous voyez le vrai, enfin le entre guillemets le vrai, le monstre du Loch Ness lui faire un signe de la main. Et donc la note finale du livre, c'est que bah dans le fond peut-être que le monstre il existe bien quand même. Hein. Enfin j'en ai plusieurs exemples, c'est d'ailleurs là que l'idée vient. Dans un des livres que j'ai, voilà, ils vont visiter le Loch Ness et alors l'enfant demande à sa prof, est-ce que le monstre existe? Elle dit non, c'est une légende. Enfin bon, c'est peut-être possible. Donc, ils maintiennent toujours l'idée que le monstre du Loch Ness existe peut-être. Et donc, nous, on va faire exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'on va donner des arguments sceptiques pourquoi ça n'existe pas, et on va pas réenchanter à la fin en disant bah, peut-être bien que le monstre existe quand même. Hein. Bah, ceci dit, encore une fois, ça serait notre premier chapitre. On ne compte pas traiter que du monstre du Loch Ness, mais comme on a pas mal travaillé dessus, je me permets d'en parler pour vous déjà un peu vous teaser, j'espère vous donner envie d'acheter ce livre. Maintenant. À la vie, bah à mon avis, il sortira pas avant 6 mois ou peut-être 1 an. On essaye de peaufiner ça pour que ce soit le mieux possible. Ok, j'ai déjà beaucoup trop parlé, donc je vous laisse écouter maintenant les extraits de cette émission de La Tronche en Biais, auquel j'ai participé récemment, de ce débat. Et encore une fois, si vous voulez voir l'émission complète qui fait 2 heures, vous trouverez facilement la vidéo sur la chaîne de La Tronche en Biais.
Juste pour quand même pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet et éventuellement créer de la polémique, on a ici des sensibilités différentes du scepticisme. Est-ce qu'il y a des choses qui vous dérangent dans ce que les uns ici présents ou pas présents produisent ou dans la communauté? Est-ce qu'il y a des choses que vous... Non, Vled, on va laisser la parole aux gens plus gentils que toi, d'abord. On finira par toi, parce que toi, tu es méchant. Mais vous voyez ce que je veux dire, il y a sûrement des choses qui sont faites au nom du scepticisme par des gens qui sont reconnus, étiquetés, la tronche en biais, spécifique, machin, j'ai le mental, cela. Et parfois, on dit, ah ouais, mais bon, contenu, désolé, mais ça m'ennuie. Ou dans les comportements, ou dans les réactions, ou dans le... Est-ce que Mandax, qu'est-ce qu'il est allé foutre chez Meta TV? C'est une critique, hein, voilà. Est-ce qu'il y a des choses, vous, qui vous dérangent dans ce que vous avez pu voir? Jean-Michel, allez. Je te sens, t'es chaud, là. T'es chaud.
Merci de me passer la patate chaude.
Moi, je voulais bien, hein.
Oui, je pense qu'il y a des choses qui me dérangent, mais enfin, je pense que l'inverse serait malheureux. Hein. Par quoi j'attaque? Un truc soft. Allez, on va attaquer avec le féminisme, alors. Non, c'est pas du tout soft. Hein, mais...
on est dans la merde. Nous allons évacuer la salle.
Bah, je crois qu'on a fait récemment un épisode sur mon balado, à propos du scepticisme. Et c'est vrai qu'il y a une tendance dans le mouvement rationaliste en général, ou le mouvement sceptique, zététique, enfin tout ce qu'on a, la même ombrelle, hein, à faire une critique assez forte du féminisme, évidemment, on va dire social justice warrior. Moi, c'est toujours déjà ça, c'est la question très épineuse du scepticisme et de la politique. Ici, ce que j'observe, c'est des comportements où certains sceptiques vont. Des sceptiques même reconnus, hein, on va pas nommer de nom, mais voilà, qui vont poster, par exemple, systématiquement des articles qui critiquent les social justice warriors, mais absolument jamais rien en faveur du féminisme. Et donc, on va leur dire, oui, mais attends, t'es un critique du féministe. En fait, tu développes une rhétorique anti-féministe là. Ils vont me dire, oh, non, je suis pas anti-féministe, mais je supporte pas les social justice warriors. Mais moi, je lui dis toujours, mais écoute, si dans ce cas-là, tu devrais de temps en temps poster un post en faveur des valeurs féministes quand même. Ouais, mais c'est pas mon rôle. Moi, j'ai un rôle d'attaque ou de critique, donc je poste que des trucs qui sont à l'encontre des social justice warriors, même si je concède du bout des lèvres qu'elles ne représentent pas toutes les féministes. C'est une rhétorique qui se déploie de plus en plus dans les milieux sceptiques et athées. D'ailleurs, quand j'ai fait l'épisode du balado en question, on disait ce serait quand même cool que le mouvement zététique soit pas assimilé à de l'antiféminisme, hein, ce serait pas mal. qu'on fasse un peu attention à ces comportements-là. Évidemment, là, j'ai eu une volée de commentaires en disant « Mais non, on est des zététiciens, il faut casser les social justice warriors. » Et évidemment, t'es trop soft. C'est comme des psychanalystes, ces femmes-là. Elles sont hystériques. Voilà. Mais bon...
la réaction, c'est que j'aurais apprécié que l'émission cite les personnes incriminées pour pas que tout le monde pense que c'est Mandax. Parce que j'ai pas écouté l'émission pour ça, en fait. Parce que d'abord, j'ai pas trop de temps pour écouter beaucoup de trucs. Et parce que on m'en fait des retours comme quoi, bah dis donc, on parle de toi, en fait, on parlait pas de moi. La plupart du temps. Mais peut-être que si en partie. Mais du coup, si vous aviez identifié, alors ça demande du courage peut-être, mais identifier les noms, on peut répondre aux éléments,
non,
de
mais
manière
c'est vrai.
À contextualiser.
Ok, je peux identifier un et ça sera safe parce que c'est un Américain. Michael Shermer, qui est le président de la Skeptic Society maintenant aux États-Unis, est vraiment à fond dans ce trip-là. Bon, il faut savoir, il y a des histoires, je ne sais pas si c'est... conférence là-dessus, mais donc il y a eu l'Elevator Gate avec Rebecca Watson et il a été accusé d'avoir fait des avances qu'il n'aurait pas dû lors d'une convention sceptique, et puis ça n'a jamais été plus loin, il n'y a jamais eu de procès, rien. Mais depuis, c'est vrai que si vous suivez le feed Twitter de Michael Shermer ou son feed Facebook, vous allez avoir pratiquement plus rien sur le paranormal, ce qui était la raison pour laquelle je le suivais au départ, et maintenant pratiquement tout sur les social justice warriors.
Mais c'est un des sujets que je traite personnellement de temps en temps. Je suis pas expert de ça, mais pourquoi j'en parle de temps en temps, c'est parce que je suis attaché à la liberté d'expression et qu'il y a un problème, c'est qu'il y a certains sujets sur lesquels on n'est plus autorisé à parler. Et on a le sentiment qu'on n'est plus autorisé à parler de certaines choses. Et donc,
tu peux éviter de dire des choses qui ressemblent à on peut plus rien dire, on peut plus rien faire, s'il te plaît.
Le fait est que, du coup, puisque tu as ouvert la brèche, je ne peux pas rester sans répondre. Au tout début, moi, on m'a posé la question, qu'est-ce que tu penses du féminisme ? Et maintenant, j'ai répondu, en fait. Et c'était mon erreur. C'est-à-dire que j'ai répondu que c'était un combat extrêmement important, que c'était une course qui n'était pas finie, même s'il y a eu des avancées, et voilà. Et que c'est dommage que parfois, la manière dont c'est défendu soit tellement agressif que des gens ne se sentent pas impliqués, voire s'opposent à des valeurs, alors qu'en fait, ils les partagent au fond. Mais que dans la forme, c'est les... Et on me tombait dessus. En disant, c'est scandaleux ce que tu dis, tu n'as pas critiqué cette chose-là. Et le mec, c'était un homme. Bon, il me fait du mansplaining, toi, la leçon. Et en fait, sur Twitter, on a pendant des heures échangé. Le mansplaining, c'est quand on explique à une femme. Mais le mec, c'était un homme.
S'il te plaît, fais gaffe.
Mais le mec, c'était un homme. Ça aurait été une femme qui venait me parler de féminisme, ça aurait été plus acceptable dans la doxa de cette chose-là. Bref. Donc, au bout de. Quelque temps, je lui dis, ça fait quand même quelques heures qu'on parle de mon cas, alors que ça aurait été plus intelligent de partager des ressources qui parlent de pourquoi c'est important le féminisme. Il m'aurait dit, tiens, puisque tu trouves que c'est important, partage ça, ben, j'aurais partagé, mais là, en fait, du coup, je vais de me défendre parce que j'estime que certaines rhétoriques sont pas hyper intéressantes. Et de manière générale, je sais que c'est une des choses aussi qui me distingue, moi et Christophe, c'est que moi, j'aime d'abord critiquer les gens avec qui je suis d'accord sur l'essentiel, mais où la rhétorique me semble défectueuse. Parce que je me dis, c'est quand même dommage de défendre, d'être antiraciste ou antispéciste ou pour l'écologie, et de faire avec des arguments tellement pourris qu'en face, ils rigolent de vous et ils pensent qu'ils ont raison. Je pense qu'en face, ils ont tort et qu'il faut qu'ils s'en rendent compte, et donc du coup, ils s'en rendent davantage compte si les arguments sont bons. C'est mon point de vue. Ça ne veut pas dire que mon point de vue à moi doit être le seul qui compte. J'estime que cette critique-là, elle doit être présente pour qu'on s'améliore dans la rhétorique. Je serais très heureux d'en parler moins, en fait. Mais le problème, c'est que dès que j'en parle un tout petit peu, ça prend telle proportion que je suis obligé de répondre. Et mes collègues en ont marre qu'on en parle, d'ailleurs. Parce qu'en fait, ce n'est pas le thème de base de ce qu'on veut faire. Et le scepticisme, il ne sert pas d'abord à faire chier les progressistes. Évidemment. Mais les progressistes ne sont pas immunisés contre la critique.
Il y a, j'ai une petite anecdote par rapport à ça. Lors des législatives de ma région, il se trouve que la candidate de mon parti politique, que je ne vais pas citer, mais qui n'était pas macroniste, qui n'était pas macroniste, oui, qui était un petit peu très à gauche,
vas-y, enchaîne,
était naturopathe. Donc j'ai pris une photo du tract et je l'ai mis sur Facebook et j'ai mis et j'ai râlé, j'ai mis putain t'es sérieux Didier quoi, candidat ne s'appelle pas Didier,
c'est une expression locale, t'es sur le Didier pour dire oh, franchement ça va pas,
ah non mais franchement quoi, je me vois pas glisser ce bulletin là dans l'urne, ça me fait chier. Et il y a des gens aléatoirement brillants, il y a pas 9/11, qui ont repris ça, qui ont repris ce tweet et qui sur leur base de données ont mis oh là là, Vlad Tapas qui critique la candidate de insérer le parti politique qui est naturopathe mais qui dit rien sur le candidat de Macron qui est astrologue.
Je suis même pas sûr qu'il est astrologue.
Si. Mais il y a un moment où je veux dire, les candidats de Macron, ils peuvent bien faire toutes les conneries qu'ils veulent. J'en ai rien à foutre.
D'ailleurs, ils s'en privent pas.
Ils s'en privent pas, exactement. J'en ai rien à foutre. C'est pas mon parti à moi qui ridiculise quand ils font ça.
Donc, ça, juste pour dire que voilà, il y a, mais c'est hyper important, c'est Sylvain, l'intention qu'on prête aux gens qu'on va critiquer avant de les critiquer, plutôt que poser des questions pour être sûr qu'on a bien compris ce que dit l'autre.
C'est ça.
On va attaquer bientôt parce qu'on a l'impression que c'est un ennemi. Et c'est ce qui se passe, je pense, dans les relations entre militants, quel que soit-il, et les sceptiques, quels qu'ils soient. C'est que les sceptiques ne sont pas là pour laminer le fond des combats, mais pour critiquer la manière dont les combats sont menés par rapport aux arguments. Et c'est identifié comme « Ah, donc vous êtes nos ennemis ». Et peut-être qu'on le fait mal, la critique. Elle est mal calibrée, qu'elle est mal portée, etc. Mais en tout cas, il ne faut pas prêter... on évite ça, je pense, dans le marche. On n'est pas en train de prêter des intentions.
Le problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas une initiative qui est une initiative militante. Donc, les propos militants positifs, on ne va pas forcément les partager. Parce qu'on estime qu'ils n'ont rien à se reprocher, ils sont globalement bien. Par contre, dès qu'il y a quelque chose qui, dans la méthode, pose problème, et dans la mesure où notre approche du scepticisme, justement, a rapport avec la méthode, là, on va le critiquer. Et on va le critiquer parce qu'on a envie que ce soit bien défendu. Et le souci, c'est que ça, et c'est sans doute un problème, on le dit sans doute pas assez, qu'on a envie que ça se soit bien défendu. Et le problème, c'est que de fil en aiguille, au fur et à mesure, on a cette espèce de boule de merde, comme un bousier qui a été poussé, qui fait que de plus en plus on est associé à de l'antiféminisme alors que pas du tout.
Ouais, mais en même temps, c'est ce que tu viens
donc
de dire.
Donc peut-être que l'erreur, c'est de pas suffisamment dire qu'on l'est, quoi. Peut-être.
La pente naturelle de l'esprit zététique, c'est d'être en contrariant et de j'ai une critique super importante à faire, j'ai entendu une connerie là, il faut que je la corrige. Il y a quelqu'un qui a tort sur Internet, oui. Il faut que j'intervienne, quoi. on fait ça avec les féministes aussi. Mais alors tu dis en fait, quand je vois quelque chose que les féministes disent et que, alors dans le fond, je suis d'accord avec, bon là je retweet pas ou je dis pas ça c'est bien, et alors forcément la seule chose que voient les féministes en face, c'est qu'on n'arrête pas de leur rentrer dans le lard. C'est assez logique. Et pourquoi est-ce qu'on peut pas, en tant que zététicien et sceptique, au contraire dire ah mais non, on est d'accord avec ça, on est d'accord avec telle prétention légitime des féministes? Par exemple, à Bruxelles Sceptico Pub, on essaie vraiment d'avoir la parité parmi les intervenants, donc on a une conférence par mois, on essaie donc d'avoir 6 femmes et 6 hommes dans l'année. On fait des efforts de ce côté-là, donc aussi pouvoir dire ce genre de choses et dire voilà, en fait on adhère aux valeurs qui sont celles-là, et on va pas juste repérer la personne qui a un discours extrême et l'attaquer elle, parce que c'est notre job en tant que zététicien.
Après, on peut parler à des sujets différents sur la critique de comment le scepticisme est pratiqué ou ressenti.
Une dernière chose par rapport à ça, et ça c'est vraiment un immense problème, c'est que de l'autre côté, il y a exactement le même problème que celui qu'on a, c'est-à-dire qu'on voit plus ce qui va pas, et que parler de féminisme de manière positive et des causes sociales de manière positive, on le fait énormément aussi. À un point tel qu'il y a des gens qui m'ont déjà, moi, traité de social justice warrior personnellement. Donc, écoutez, merci. C'est ironique. Non, le fait, on le fait. Mais c'est toujours les gens qui sont pas d'accord avec nous qui vont le retenir. Et c'est chiant, parce que je veux dire, d'un côté, il y a des gens qui sont persuadés qu'on est d'extrême droite et d'autres qui sont persuadés qu'on est d'extrême gauche. Il y en a qui pensent qu'on est des social justice warriors, il y en a qui pensent qu'on est des antiféministes, il y en a qui pensent qu'on est des homophobes. Putain, j'ai fait mon coming out il y a 2 mois. C'est chiant, quoi.
Voilà, il y a une distance entre ce qu'on fait et la manière dont c'est perçu. Et on n'est pas les seuls responsables. Mais ça nous incombe. Mais on n'est pas les seuls responsables. Donc, à un moment donné, le rapport entre militantisme et sédisme dont vous avez parlé, c'est vrai qu'on ne peut pas avoir le même niveau d'exigence sur les... on a le droit que les militants savent ce que c'est qu'une attaque de Minem ou qu'une pente glissante. Ok, mais quand même, dans leur démarche, ils en ont besoin, en fait, aussi, d'être propres dans leur rhétorique, je pense. Et s'ils ne veulent pas l'intégrer, ils ne vont entendre de nous que des critiques. Mais il y a aussi le fait que dans notre bulle, à nous, les uns et les autres, je pense qu'on voit plus passer de contenu pro-féministe, parce que dans nos sphères, dans nos contacts, on n'a pas trop de fachos et des masculinistes. J'en ai très peu autour de moi, quand même. Donc, forcément, ce que je vois passer et qui m'agace, c'est les contenus qui m'agacent chez ceux avec qui je suis d'accord. Il faudrait que je sois ami avec des milliers de gens sur Facebook pour voir arriver des contenus débiles d'extrême droite. J'en ai pas dans mes feeds. Donc, c'est le biais aussi qu'il faut accepter de voir, c'est que je ne vais pas critiquer ce à quoi je n'ai pas accès. Et je ne vais pas envie d'aller fouiller la merde des fascistes pour y aller voir. Et je pense en plus que c'est pas hyper utile. Ces aspects-là, on sait bien que c'est un acquis social que l'égalité est souhaitable. Après, les modalités, voilà. Donc, je ne pense pas que ce soit utile, nous, qu'on aille frotter, est-ce que oui ou non, c'est bien de voir l'égalité. Et donc, je pense que si on faisait l'effort de comprendre ça, on serait en meilleure intelligence pour aller vraiment sur les sujets importants, quoi. Ils sont sur quelles critiques sont légitimes dans la manière dont les gens veulent militer. Il y en a qui sont vraies, des critiques. Peut-être que ce que nous on dit, c'est faux. Sauf que les critiques qu'on émet, on n'a pas de retour sur le fond. On a un retour sur vous, en tant que vous, taisez-vous. C'est pas acceptable.
Vous écoutez Scepticisme Scientifique, le balado de la science et de la raison, un podcast consacré à l'étude scientifique du paranormal, à la pensée critique et à la philosophie.
Et donc je te laisse la parole parce que tu as une critique particulière aussi. Est-ce que les sceptiques sont sceptiques? En gros,
c'est à propos du paranormal, moi. Mais juste 30 secondes, je voulais quand même dire que j'étais Vled, qui ne me regarde même pas parce qu'il en a absolument rien à foutre de ce que je raconte.
Ça, c'est une critique, ça, t'as vu?
Non, mais Vled, je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, ça fait. Mais ça a toujours été comme ça, la communauté zététique ou sceptique, depuis toujours. Et tous les 6 mois, je me dis, oh, je vais plus me dire zététicien, je fais chaque fois une crise de, je me fouette un peu, et puis, je vais me dire folkloriste, ou bien, oh, je vais extrême, je vais me dire parapsychologue, et tout, tu vois, mais après, je me calme, quoi, prends une douche, et puis voilà. Bref.
Non, c'est vrai, il faudrait.
Mais voilà, donc c'est voilà, les communautés sont comme elles sont, c'est normal. Il y aura toujours ce genre de dérive au sein de la communauté zététique. Mais ce qu'on dit, c'est qu'il y a des dérives au sein de la communauté zététique, et dire le contraire, ça serait se voiler la face. Hein. Moi, ma critique, c'est par rapport au paranormal et particulièrement bon, les zététiciens. On l'a dit au départ, en tout cas, c'était le sujet du paranormal, et beaucoup de zététiciens s'imaginent ou pensent ou se présentent dans les médias comme étant des spécialistes du paranormal. Mais ce qui est bizarre, c'est que ces personnes n'ont jamais fait la moindre publication scientifique sur le paranormal, et c'est quelque chose qui me perturbe, parce que généralement, dans n'importe quel autre domaine, on dirait oui, mais pour que tu sois un sceptique, il faut qu'un spécialiste d'un domaine, je sais pas moi, le nucléaire, etc. Il faudrait bien que tu aies un diplôme pertinent dans le domaine et que tu aies fait des publications dans le domaine. Mais dès qu'on parle du paranormal, subitement, cette demande disparaît, parce que le paranormal, n'importe qui peut en dire des choses intéressantes.
Bah ouais.
Et donc ça, c'est la première chose. Je pense que il y a un échec dans la communauté zététique et sceptique à identifier les personnes qui sont vraiment des experts légitimes sur le sujet du paranormal. Et
Monsieur Abrassard, qui est un expert légitime du paranormal, c'est ça qu'il veut dire. C'est vrai.
Bah, dans le fond, je me suis fait chier à faire des diplômes. Je me fais chier à faire des publications scientifiques. Et puis, monsieur X ou Y, qui a une chaîne YouTube, va publier des bouquins sur le paranormal en disant ouais, moi je suis un expert parce que j'ai lu.
C'est lui, c'est ça.
Parce que j'ai lu les bouquins d'Henri Brock, et donc je sais de quoi je parle, évidemment, sur le paranormal, quoi. Et ça, c'est la première chose. Et aussi, il y a une exigence qu'il faut absolument avoir. Si vous prétendez être des spécialistes du paranormal, si vous prétendez étudier le paranormal, il faut faire des publications scientifiques. Alors, si vous faites des expériences, par exemple, au hasard, si vous faites partie d'une organisation qui teste des voyants, Ça serait pas mal de publier ça sous forme d'un article scientifique. Si vous faites des recherches sur l'astrologie, ce serait pas mal d'essayer de publier ça dans des revues scientifiques. À ce moment-là, on peut dire évidemment qu'on est un expert sur le sujet.
Il faut du temps pour ça. Il faut de la dispo pour ça.
Ouais. En gros, c'est un message à l'OZ.
Si j'avais le temps, j'essaierais. Mais ouais.
Parce que l'OZ a publié a fait quelques publications il y a quelques temps, mais c'est un travail énorme, quoi, de vraiment faire de la science.
Oui, mais j'ai pas de problème avec le fait qu'on me dise, ouais, j'ai pas le temps de faire le travail de la science. Mais j'ai le problème quand après on fait, oui, mais en fait, on est quand même des spécialistes du paranormal, ce que les zététiciens tendent à prétendre, évidemment. C'est un peu bizarre de dire, on est des spécialistes du paranormal dans les médias, on va sur les plateaux de télévision pour en parler, etc. Et puis après, quand on confronte les gens avec le fait qu'ils n'ont pas fait de publication scientifique sur le sujet, même d'expériences qu'ils ont réalisées, on a fait une expérience, et puis qu'est-ce qu'on a fait? On a publié les résultats sur un site web, quoi. Ce qui est vachement sérieux, évidemment. Ça fait penser aux chasseurs de fantômes et des gens comme ça qui s'imaginent que la science, ça se fait via des publications sur Internet. Moi, je trouve ça problématique. Moi, qu'on me dise, je suis pas un expert sur le paranormal, et donc, voilà, j'ai pas de problème avec ça, ou je rêve d'être un expert, mais j'ai pas le temps. Ça me pose pas de problème. C'est dur. La science, c'est dur. Faire des publications scientifiques, c'est dur. Je suis d'accord. Mais c'est une exigence qu'il faut avoir. Et donc, avant de se proclamer des experts dans ce sujet-là, et donc, de toute façon, moi, ma critique, c'est faites l'effort de faire des publications scientifiques. Si vous avez fait une étude, si vous avez fait une recherche, si vous avez quelque chose à dire sur ces sujets-là, il faut pas faire que de la vulgarisation. Vous vulgarisez qui? Vous vulgarisez vous-même, vos propres travaux, parce que vous vulgarisez pas les travaux. Parce que les mecs qui publient actuellement le plus d'articles scientifiques en France sur le paranormal, c'est Renaud Évrard et Thomas Rébaron, c'est deux tenants de l'existence du paranormal, hein, c'est pas des sceptiques. Donc en fait, vous vulgarisez vous-même.
Pour connaître Renaud, il ne se prétend pas tenant.
Oui. Après, quand il parle à la tronche en biais, quoi.
Quand il me parle à moi, il est sceptique. Bonjour Renaud, on fait une émission quand tu veux, hein. Enfin, c'est prévu plus ou moins un jour. Il est à Nancy, alors voilà.
Dans quelle revue on publie des articles pro-paranormal?
Alors par exemple, il y a plein de revues de folkloristique qui publient plein de recherches super intéressantes sur ce sujet-là. En sociologie, on peut en publier, en anthropologie, on peut en publier, par exemple.
Non, mais les articles des tenants du paranormal.
Dans les revues que je viens de dire.
Qu'est-ce qui aurait été montré, par exemple?
Donc, qu'est-ce qu'ils ont démontré de paranormal?
Du coup, là, tu as ouvert une porte encore. À ce temps-là, t'es un mettant.
Non, mais Thomas Rébaron, il a fait des recherches expérimentales pour essayer de prouver la télépathie en France. Et donc, il a publié ça dans des revues de parapsychologie. Maintenant, vous allez me dire que les revues de parapsychologie ne vaut rien. Mais c'était pas le.
Non, les homéopathes publient dans des revues d'homéopathes.
Oui, ah oui, c'est des gens qui essayent de démontrer.
En fait, ça transfère le débat sur une autre question. Moi, mon problème n'est pas là. Je veux dire, pour moi, le problème, c'est est-ce que les sceptiques publient? C'est facile de dire, bon, est-ce que les parapsychologues publient? Est-ce qu'ils publient dans des bonnes revues? Ça, c'est transférer le débat sur les parapsychologues. Mais moi, je suis pas intéressé on peut discuter de la parapsychologie. Je suis intéressé par la critique. On parle de la critique des zététiciens. Et c'est que nous, on publie. Ben non, on publie pas, en fait, des vidéos YouTube à la place.
Alors, juste pour un élément de réponse. Dans notre chaîne et dans la plupart des autres chaînes, je pense qu'elles sont pas, on ne se prétend pas expert.
Ah non, moi je ne suis pas l'expert du paranormal. Moi, mon métier, c'est d'être graphiste, par exemple.
On tâche de vulgariser des choses. Et surtout que moi, je ne connais pas bien la littérature sur le paranormal. Je vulgarise des choses plus sur la psychologie, la sociologie, des sciences, et un peu de philo. Mais le fait est que le jour où on aura une étude qui montre la télépathie, c'est pas la tranche en biais qui va le démontrer, ça va exploser dans mon entier. Donc je suis pas tellement inquiet de rater une information de ce type-là le jour où elle sera réelle.
En fait. Nous, dans notre association, je pense qu'il y a personne qui s'est jamais prétendu comme expert.
Non, mais
c'est paranormal. Voilà. Par contre, moi, je vois que l'expert en chimie, par exemple, bon, ça c'est celui qui publie dans une revue de chimie, c'est un chercheur. Voilà. Un prof de chimie au lycée. Bon, lui, il n'est pas expert en chimie, il est prof de chimie. Par contre, le prof de chimie, quand il est devant ses élèves, il mélange des produits, ça devient violet et ça fait de la fumée. Donc il fait bien des petites expériences. Voilà. Donc moi, je suis un petit peu plus comme le prof de chimie. Je ne suis pas chercheur en chimie, je ne publie pas dans des revues, un comité de lecture de chimie. Et pareil pour le paranormal, si parfois on fait quelques petits protocoles, ils n'ont jamais pour but d'avoir une rigueur qu'on attendrait d'une revue à comité de lecture pour faire avancer la recherche. C'est juste devant les gens, si possible en plus devant le journaliste qui va regarder le protocole et qui en fera un petit reportage sur TF1 pour essayer de montrer ce qu'on appelle la méthodologie scientifique et puis la rigueur qu'on pourrait attendre si on voulait faire de la recherche. Voilà, moi je suis plus le vulgarisateur de la méthode et on n'a jamais eu aucune intention de publier dans une revue à comité de lecture, je pense.
Et puis surtout, c'est pas parce qu'on n'a pas publié un truc qu'on n'a pas fait du travail de recherche derrière pour faire la vidéo. Genre, genre ça m'est arrivé de, enfin voilà, de faire des nuits blanches vraiment à rechercher des tas de trucs, des tas d'articles justement écrits par des gens qui savaient, pour ensuite essayer de les comprendre, pour ensuite demander à des gens qui savaient, par exemple par mail, de me faire un retour sur un sujet que je connaissais pas, pour pouvoir après en parler. Pas légitimement, mais au moins vulgariser à peu près légitimement un tel ou tel sujet. Et il y a un gros travail de recherche aussi derrière, et c'est pas forcément parce qu'on n'a rien publié, on se prétend pas expert. On dit juste, on a demandé à des experts, on a recherché des travaux faits par des experts. Et du coup, je vous présente une compilation à peu près intéressante et de tout ce que j'ai trouvé.
Alors, voilà. La critique de Jean-Michel, c'était vraiment sur le paranormal, pour le coup.
Ah, sur le paranormal.
C'est quand même essentiellement là.
J'ai fait une vidéo sur le paranormal aussi.
Il a totalement raison de dire que... peut-être on n'est pas vraiment sceptique, peut-être qu'on est déjà convaincu en fait.
D'accord.
Beaucoup de la communauté des gens sceptiques sont convaincus et font peut-être pas assez d'efforts. Moi le premier, je fais pas assez d'efforts pour lire la littérature, mais parce que ça demande beaucoup de temps et tu l'as reconnu. Donc c'est...
Nous avons besoin de vous pour le scepticisme. Vous êtes un fan du podcast, vous aimez le travail que nous réalisons, vous voulez nous soutenir, vous voulez vous assurer du fait que le programme continue, vous voulez nous aider avec... les différents frais liés à la réalisation de ce podcast. Dans ce cas, nous vous invitons à devenir un de nos mécènes sur Patreon. Le site patreon.com permet de devenir un mécène de notre podcast à partir de 1$ par mois.
Non, j'ai une question du coup par rapport aux recherches sur le parapsychologie, etc. Et en fait, toutes les thèses apparemment que Jean-Michel, tu dis être des éléments sur lesquels on peut se permettre de faire de la zététique, j'espère que je ne serai pas trop péjoratif, un peu de seconde zone, c'est-à-dire qu'on présuppose qu'on a le droit de se permettre ça, les ovnis, les trucs un peu rigolos, les terres plates et machin. Et je me dis, est-ce que ça... pas compliqué du coup de faire des recherches sérieuses dans ce domaine-là aujourd'hui, surtout avec la baisse de la recherche publique qui est un peu plus enfin en tout cas dans mon esprit fonctionne peut-être un peu plus par sérendipité, on va dire allez-y, faites de la recherche, on va vous rémunérer, alors que aujourd'hui je me dis avec la libéralisation et enfin néolibéralisation, enfin je vais pas trop rentrer là-dedans, mais en tout cas je me dis voilà, comme on pousse à dire il faut qu'il y ait une efficience de l'autre côté, il faut qu'on ait un résultat, il faut qu'on ait un truc économiquement exploitable de l'autre côté quand on fait de la recherche, est-ce que c'est pas super difficile du coup d'avoir des moyens, d'avoir des chercheurs dans ces domaines-là?
Oui, non, c'est clairement difficile pour des raisons économiques, ça c'est clair, mais aussi pour des raisons du fait que c'est des sujets qui ont... Et c'est quelque chose qu'on peut étudier en sociologie, mais c'est des sujets qui sont perçus comme pas sérieux, évidemment, ou alors c'est des sujets qui sont toujours polarisés, on y croit, on n'y croit pas, alors qu'en termes de recherche scientifique, on peut travailler sur, évidemment, pourquoi les gens y croient, etc. Il y a peut-être pourquoi les gens rapportent des expériences X ou Y. Il y a des tas de questions fascinantes qu'on peut se poser sur ces phénomènes-là, mais malgré tout, ces phénomènes ont une aura de... c'est pas des sujets légitimes pour la science. Et forcément, il n'y a pas d'application économique. Évidemment, si les recherches arrivaient à démontrer l'existence du psy, donc la télépathie, etc., on pourrait imaginer qu'il y ait des applications économiques à ça, voilà ce que je répondrai là-dessus. Mais pour moi, surtout, ce que je voulais dire dans mon intervention précédente, mais c'est pas une question d'application économique, etc. C'est une question que, pour moi, la méthode scientifique, ce n'est pas que... Il y a un aspect très important de cette méthode, c'est la revue par les pairs. Et donc, la revue par les pairs passe nécessairement par la publication dans des journaux. Et donc, si on fait pas cet effort d'aller vers les journaux, bah forcément, on se confronte pas à la revue par les pairs, on se confronte pas à des intellectuels qui ont pas le même avis que nous, ou qui ont lu la littérature et qui l'ont pas évalué comme nous. Et donc, pour moi, appliquer la méthode scientifique dans le vide, sans passer par la revue par les pairs, on loupe quelque chose de très important et d'essentiel dans ce système-là. Par exemple, pour donner un exemple, si on fait des expériences sur un sourcier, mais on dit on va tester un sourcier parce que j'aime bien faire ça, c'est mon hobby. Le problème, c'est que en testant beaucoup de sourciers, on peut faire des bases de données, puis on peut faire des méta-analyses. Mais si on fait, on teste un sourcier dans son jardin pour le fun, bah, et qu'on publie jamais les résultats, bah, ça va dans ce qu'on appelle le file drawer effect, donc l'effet tiroir, et ça va pas aller dans les méta-analyses parce je pense que l'idée derrière, c'est que cette expérience isolée suffit à démontrer que le pouvoir du magnétiseur ne fonctionne pas, alors qu'en réalité, bon, il y a eu des méta-analyses qui ont été faites sur les cas qui ont été publiés et qui auraient tendance à montrer que ça pourrait fonctionner. Mais évidemment, comme il y a un effet file drawer, mais alors ce qui est hallucinant, c'est que les sceptiques reprochent aux parapsychologues l'effet file draw, mais eux, ils ne publient pas. Et donc, forcément, ils participent activement à cet effet, quoi.
Juste pour préciser, c'est que l'effet file drawer, c'est que lorsque vous avez une étude où le résultat est négatif, vous n'êtes pas incité à le publier. Alors que si vous avez un truc positif, vous êtes incité. Donc, dans la littérature, on a une surreprésentation des résultats positifs par rapport aux résultats négatifs. Et donc, en parapsychologie aussi. Mais du coup, c'est la faute de ceux qui ne publient pas. C'est ça que, je traduis pour vraiment être sûr que tout le monde a compris.
Oui, mais si je peux me permettre, il y a des choses par rapport des études, par exemple, par rapport au paranormal, ou qui vont relever, mettons, des neurosciences, ou comme des études sur l'effet de la prière sont parues dans une revue prestigieuse de cardiologie. Mais parce que là, ils avaient eu des financements, d'ailleurs, par une église
oui, mais ce que
qui a prouvé que la prière était plutôt nocive pour se remettre d'une opération. Mais voilà, donc juste, je voulais terminer sur le fait que il y a les chercheurs de ces domaines-là. En fait, le chercheur, il aime trouver quelque chose. Donc, chercher sur un sujet où, quand même, les plupart du temps, à l'avance, on va savoir que on va démontrer qu'il n'y a pas d'effet, ou c'est pas efficace, ça va être moins attirant que, enfin, de mon point de vue, ça va être moins attirant qu'un sujet sur lequel on se dit on va trouver des choses. Et moi, quand j'ai commencé à travailler sur les ondes électromagnétiques, je pensais qu'on allait découvrir quelque chose de fantastique en dessous des normes. Et puis maintenant, c'est beaucoup plus difficile de mobiliser des chercheurs, et c'est pour ça que d'ailleurs il y a eu toute une polémique, parce que des gens voulaient plus que ce soit les mêmes équipes qui travaillent dessus, parce qu'une fois qu'on est bien compétent et qu'on arrive à faire des études qui n'ont plus de biais, ben, finalement en dessous des normes on ne trouve rien du tout. Et avec de l'argent, on arrive quand même effectivement à faire venir des chercheurs sur ces sujets-là, et des fois des nouvelles équipes qui n'ont pas conscience peut-être que une fois qu'on a tout mis en œuvre, eh ben, on ne trouve pas grand-chose. Et moi, après, on n'avait pas envie, et les équipes que je connais n'ont plus envie de recommencer des études sur ces sujets-là, parce que ce n'est pas passionnant, les chercheurs ont envie de trouver des choses, quoi. C'est le moteur un peu de la recherche. Alors, si on est passionné pour les sujets, je pense, plus liés à la zététique ou à la parapsychologie, on va être motivé peut-être plus pour faire ce genre de recherche. Mais si c'est des recherches qui rentrent dans d'autres domaines où il y a plein d'autres recherches à faire avec des questions ouvertes, eh ben, je pense que le chercheur, il a plus envie d'avoir une question ouverte qu'une question dont il connaît déjà le résultat, quoi.
Oui, moi, tout ce que je pointe, je suis largement d'accord avec ce que tu viens de dire. Mais ce que je pointe, c'est des effets pervers de ça. Par exemple, si vous prenez les chercheurs qui travaillent sur les expériences de mort imminente, je peux vous assurer que 95% des chercheurs qui publient dans ce domaine sont tous des défenseurs de l'hypothèse survivaliste. Hein, c'est-à-dire qu'ils considèrent que l'âme survit à la mort du corps. Parmi tous les chercheurs majeurs qui publient dans ce domaine, je peux en citer un qui n'est pas un survivaliste. Et donc, c'est assez marrant parce qu'on obtient un système, et c'est des gens qui publient dans des revues de médecine, etc., parfois des revues réputées. Et donc les sceptiques derrière, comme ils ne publient pas, bah voilà. Donc ça veut dire que les parapsychologues, je l'ai déjà dit, publient bien plus que nous sur ces sujets-là, et évidemment ils obtiennent des résultats positifs. Il ne faut pas s'imaginer qu'ils n'obtiennent que des résultats négatifs. Mais comme nous on ne publie rien, bah, on obtient un état de la littérature où largement l'existence de la télépathie, en réalité, si on regarde la littérature actuelle, la plupart des articles disent que c'est prouvé. Les EMI, ça prouve l'hypothèse survivaliste, puisque tous les chercheurs qui travaillent dans ces domaines-là, c'est le consensus à laquelle ils sont arrivés, et comme nous, on ne fait pas l'effort derrière.
Alors, je ne sais même pas s'il y a vraiment une question d'effort, parce qu'à un moment, on sait tous comment fonctionne la littérature scientifique, et ça, c'est un problème véritablement afférent à la manière dont la littérature scientifique et le système des revues est géré. Une étude qui va dire on a testé ça, ça ne marche pas, elle est impubliable. Elle est quasiment impubliable. Il n'y a pas beaucoup de revues de renommée ou de revues véritablement intéressantes, de bonnes catégories, dans lesquelles on va réussir à publier le truc. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ?
Il ne faut pas aller dans le micro parce que là, les gens n'entendent pas.
Donc, c'est de la toxicologie.
En toxicologie.
En toxicologie, justement, il y a plein de tests où le résultat n'est pas forcément positif. Parce que là, ce n'est pas comme de la recherche fondamentale. On n'est pas en train de chercher à trouver quelque chose de nouveau. On est en train de chercher, est-ce qu'il y a un effet ou pas ? Donc la réponse, elle est intéressante. Mais cela dit, on constate même en toxicologie, on est moins motivé pour publier quand on n'a rien trouvé que quand on a trouvé.
Mais parce qu'il faut qu'on conclue. Il y a l'idée de la sociologie de la science. Quelle est l'utilité sociale de différents programmes? Évidemment, il vaut mieux mettre de l'argent dans la recherche contre le cancer que dans la recherche est-ce que la vie après la mort existe. C'est logique qu'il y ait beaucoup moins d'argent et on ne va pas faire semblant de s'en étonner. Même si c'est passionnant d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue appliqué, c'est plus compliqué. Sur la question de qu'est-ce qu'une publication scientifique? On fera un live, c'est le 11 avril, avec Guy Gourier.
Pour parler de ces différents problèmes-là, parce que ça serait compliqué d'étudier ça, parce que justement, il faut bien faire une différence entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée. Déjà, dans la recherche fondamentale, décrocher des financements aujourd'hui, c'est compliqué. Dis-moi si je me trompe, mais en tout cas, j'ai l'impression que quand moi je faisais de la recherche, c'était hyper compliqué de trouver de l'argent pour de la recherche fondamentale. Et c'est chronophage en plus. Du coup, en fait, Jean-Michel, j'ai l'impression que ce que tu reproches, c'est des trucs, mais sur lesquels on peut pas grand-chose, et c'est pas de la faute des zététiciens, c'est à cause de l'état dans lequel se trouve actuellement la science et le système des revues, quoi.
Oui, mais par exemple, pour les revues de parapsychologie, il y a des systèmes de pré-registration maintenant, donc on peut dire
mais
à l'avance...
On va pas être relativiste dans la qualité des revues, les revues de parapsychologie, souvent...
Oui.
Donc,
ça se discute, mais l'astuce, c'est que vous pouvez dire à l'avance, par exemple, dans 3 mois, voici l'expérience que je vais réaliser, voici la méthodologie que je vais réaliser, vous l'enregistrez à l'avance, vous vous engagez à réaliser l'expérience telle quelle, et puis alors à ce moment-là, après, vous publiez les résultats, mais comme vous êtes engagé à l'avance, vous pouvez pas tricher, mais donc si vous faites ça, moi je peux vous garantir que vos résultats négatifs, ils seront publiés dans une revue de parapsychologie. Mais encore une fois, si on ne fait pas l'effort de le faire, les parapsychologues sont beaucoup plus motivés que le reste de la communauté scientifique à publier des résultats négatifs.
C'est un problème encore de motivation et d'asymétrie, et c'est très compliqué. Donc,
c'est ça.
We were wanderers from the beginning. We were bounded only by the earth and the ocean and the sky. The frontier was everywhere. When the drought was prolonged, or when an unsettling chill lingered in the summer air, our group moved on. We sought a better place. We could always begin again. We were hunters and foragers, wanderers on the savannas and the steppes. We knew every stand of tree for 100 miles. When the fruits or nuts were ripe, we were there. We depended on one another. Making it on our own was as ludicrous to imagine as was settling down. This zest to explore and exploit has clear survival value. It is an endowment that all members of the human species hold in common. It is not restricted to any one nation or ethnic group. Long before Columbus, Indonesian Argonauts in outrigger canoes explored the Western Pacific. Egyptians and Libyans circumnavigated Africa, and a great fleet of ocean-going junks from Ming Dynasty China crisscrossed the Indian Ocean, established a base in Zanzibar, rounded the Cape of Good Hope, and entered the Atlantic Ocean. We invest far-off places with a certain romance. The open road still softly calls. The appeal, I suspect, has been meticulously crafted by natural selection as an essential element in our survival. Long summers, mild winters, rich harvests, plentiful game, none of them lasts forever. catastrophic events have a way of sneaking up on us, of catching us unaware. Your own life, or your band's, might be owed to a restless few, drawn by a craving they can hardly articulate or understand, to undiscovered lands and new worlds. Herman Melville in Moby Dick spoke for wanderers in all epochs and meridians. He said, "I am tormented with an everlasting itch for things remote. I love to sail forbidden seas."
We have a liftoff, 32 minutes past the hour. Lift off on Apollo 11.